Et bienvenue à la Grange Podcast, épisode 26, un épisode haut en couleur, avec une fois n'est pas coutume, une invitée.
Eh bien non, elle n'est pas venue.
Et donc Eric, je vais te laisser répondre à la question que j'allais poser à l'invité. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots?
Beau et fatigué.
Très bien. Alors comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir en nous mettant des super notes sur tous les réseaux sociaux
sur lesquels
habituels.
On est.
Voilà, c'est-à-dire... voilà. Okay. Vous pouvez nous faire parvenir toutes vos remarques à lagrangepodcast@gmail.com et vous pouvez bien sûr nous suivre sur Twitter, hashtag lagrangepodcast. Il faut dire que nos réseaux sociaux sont brillamment alimentés par Eric depuis...
Ouais, je suis le meilleur community manager.
C'était ça le mot que je cherchais. Voilà, il n'a pas publié un seul tweet de toute sa carrière, mais il y pense.
Non, on y pensera. Mais envoyez-nous des mails, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent.
Ouais, bah, y a Google qui m'a averti qu'il changeait sa politique de confidentialité. Okay. Merci Google. La Grange Podcast. Culture, biture et nature. Bienvenue à la grange.
Il est smooth, jingle, il est doux, il est chaud, il est cocooning.
Et toutes les musiques libres de droit qu'on utilise pour la confection artisanale à la main de nos petits jingles sont bien sûr en description, avec, comme à l'accoutumée maintenant, toutes nos sources, parce que du coup on devient sérieux, on peut dire.
D'ailleurs, si quelqu'un a un jour cliqué ou ne serait-ce que regarder les sources, s'il vous plaît, faites signe. Je suis sûr que c'est...
Mais tu rigoles, mais on a un peu plus de 500 auditeurs uniques.
500 auditeurs uniques.
Eh oui, donc tu fais tout le temps des blagues comme quoi on a perdu. Et encore, non, j'ai même pas les stats iTunes, j'ai que les stats.
Ça me tue. Je vais pas pouvoir parler pour le reste. Maintenant, je suis trop intimidé.
Tu m'étonnes. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite rubrique?
La seule qu'on fait maintenant?
Ouais. Mon exposé de CE2.
Ah oui.
Jingle.
Jingle. Pour la Maïf,
quoi. J'avoue, tous les sociétaires de la Grange aiment l'exposé de CE2.
Non, bah, grâce à mon exposé de CE2, j'ai pu assurer toute ma famille. Et grâce à elle, et grâce à la Grange, je rigole tous les jours. Les mots.
Et sur cette... sur ce beau jingle, je propose que tu lances ton exposé de CE2. Alors pour information, l'épisode du jour est comme d'habitude sponsorisé par Bledina. C'est pour ça qu'on entend des petits bruits de bébés qui sont bien sûr artificiels et libres de droit. Hein, c'est pas du tout. J'ai pas d'autre explication. Voilà.
Non mais c'est un beau fond sonore. Bravo de l'avoir choisi, Adrien. C'est-à-dire que tu fais ça avec ta bite. Aujourd'hui, Adrien m'a donné un très beau sujet pour mon exposé de CE2, le maïs.
Ah, je croyais que ça se prononçait le mai.
Le mai. Merde, j'ai tout raté. C'est une conjonction de coordination, j'ai fait ça.
Désolé, j'ai volé cette vanne, je ne sais pas où. Vas-y.
Alors, maïs, belle tige verte se finissant par une poupée remplie de grains, majoritairement jaune au goût doux et sucré, qui es-tu vraiment? J'ai vraiment l'impression qu'on enregistre dans une crèche. C'est incroyable.
La crèche podcast.
Le maïs ou blé d'Inde, encore merci à ce sacré Christophe Colomb pour ce doux nom, est originaire de l'actuel Mexique. Par sélection humaine, il est passé de son ancêtre, la théosinte, aux formes que nous connaissons actuellement.
D'accord. Donc les gens disaient, ça dirait de bouffer un popcorn de théosinte.
Alors, le popcorn n'existait pas encore parce que les grains étaient tout fins. C'était vraiment du maïs sauvage qui a été reproduit plusieurs fois.
Ah oui, du théosinte.
qui a été reproduit plusieurs fois par les agriculteurs et sélectionné pour la grosseur de ses grains jusqu'à en faire le maïs. Les différentes sortes de maïs actuels. Mais fin de cette digression.
Il a été génétiquement modifié, en fait.
Revenons à mon exposé. Il fut introduit en Europe et en Afrique au tournant du XVIe siècle. Il y a énormément de variétés de maïs. Pour exemple, on dénombre en France quelques 800 nouvelles variétés chaque année. Mais comme les enfants d'Adri, seuls 30% sont reconnus officiellement.
Et du coup, c'est quoi les autres?
C'est tout plein de variétés de maïs, mais qui sont pas déposées. Le, enfin, leur, la variété n'est pas déposée, donc.
Elle est pas reconnue comme du maïs, donc on dit.
Bah, elle existe, elle existe en tant que telle, mais elle est pas reconnue.
Ah oui, d'accord, c'est une race. Ouais, voilà. Ouais, okay, okay.
Concernant les OGM, parce que je savais qu'il fallait venir à un moment, Adri. Le maïs est un champ privilégié d'expérimentation de nos amis de chez Monsanto. 80% du maïs aux États-Unis contient des traits génétiques sous licence Monsanto, ce qui veut dire que ça, c'est un produit Monsanto.
Oui, parce qu'on peut breveter le vivant là-bas.
Voilà. D'accord. Les US produisant 35% du maïs mondial, ce qui n'est pas rien. Rappelons ici que le problème n'est pas la Excusez-moi, j'ai de fait travaillé une nuit, il me donne une voix très grave et sensuelle et des cernes imposantes. Rappelons ici que le problème n'est pas la modification du vivant, permettant de nourrir le plus grand monde, mais l'appropriation de ce vivant créant une dépendance des agriculteurs via la stérilisation des semences couplée au risque de dissémination des pollens.
Alors, je suis pas...
Oui, mais c'est mon exposé quand tu fermes ta gueule. Deux tiers du maïs produit est utilisé pour nourrir les animaux. Le reste, soit pour nourrir les humains, soit pour produire des dérivés d'alcool comme les biocarburants ou les bioplastiques. Mais dans culture, biture et nature, il y a surtout biture. Et vu que j'ai pas pris de cuite depuis un mois et demi, ici j'avais, ici j'avais écrit attendre les applaudissements pour mon mode de vie sain et équilibré.
Ah, mais l'invité n'est pas là. Donc...
Voilà. Nous allons donc parler de corn whisky. En français, whisky de maïs. Un whisky américain conditionné originellement dans un cruchon ou dans un bocal en verre lorsqu'il était distillé maison ou encore aujourd'hui vendu, distillé illégalement. Dans ce cas, il prend le nom informel de moonshine car il est distillé au clair de lune. Il était distillé au clair de lune pendant la prohibition.
La prohibition, stylé.
Ça se distille bien sûr dans un alambic. On met un mélange d'au moins 80% de grains de maïs avec de l'eau, ce qui va donner une eau de vie à 80%. Cette eau de vie peut ensuite être raffinée par un vieillissement en fût neuf pendant moins de 6 mois pour finir sur le marché avec l'appellation de bourbon. C'est donc ça le bourbon.
D'accord.
Je ne le savais pas.
Moi,
c'est de l'alcool de maïs. Je vais vous parler d'un procédé important de la consommation du maïs qui s'appelle la nixtamalisation.
C'est... Ah ouais, va te faire nixtamaliser.
C'est un procédé méso-américain qui consiste à cuire le maïs dans de l'eau de chaux ou de l'eau mélangée avec des cendres de bois, ce procédé permettant de conserver la vitamine B3 du maïs.
D'accord. Cela est sous le nom de
D'accord. Non, okay. non, oui, oui, non. Il y avait un... Je l'ai vu, mais okay. Tu peux me dire, Adrien.
Non, je n'interviens pas dans...
Ok, merci. Tu n'interviens pas quand il faut.
Attends, j'avais plein de... Non, je... Pardon.
Cela évite aux populations sud-américaines, fortes consommatrices de maïs, de développer une maladie bien dégueulasse que nous nommerons la pellagre. Une maladie bien dégueu qui touchait principalement les pauvres. Encore eux, me direz-vous. Comme par hasard, dès qu'il s'agit d'une maladie, c'est sûr que ça tombe. Alors, cette maladie... est apparue principalement en Europe et aux US au 19e siècle, puisque ces pauvres, justement, n'utilisaient pas le procédé de nixtamalisation. Et donc se retrouvaient carencés en vitamine B3. Alors, désolé pour ceux qui sont à table, mais cette jolie maladie se représente sous des formes dermatologiques diverses, telles que des lésions cutanées et des érythèmes, de bonnes grosses diarrhées chroniques et parfois de la démence. Heureusement, grâce à notre régime à mammalivore à la grange, nous évitons la pellagre car nous consommons énormément de volailles pleines de bonnes vitamines B3. Petite recette pour nos auditeurs carencés en B3, car il y en a, je suis sûr. Biactone ne pouvant rien pour votre vilaine peau, je vous invite à cuire 1 kg de maïs dans une casserole d'eau. Quand l'eau commence à frémir, ajoutez un demi-litre d'eau de mélanger à une cuillère à soupe de cendre de bois. Pure et saine ou d'hydroxyde de calcium, ne me demandez pas ce que c'est. Je prendrai de
je
la.
Je crois que c'est ce qu'il y a dans les coquilles d'œufs.
D'accord. Enfin, le cas échéant, si vous ne savez pas ce que c'est que de l'hydroxyde de calcium, prenez donc de la cendre de bois pure et saine. Au petit matin, n'oubliez pas le petit déjeuner, repas le plus important de la journée, ainsi que de sortir les chiens. Puis, rincez les grains en les frottant entre vos doigts, ce qui aura pour effet de retirer la petite peau appelée péricarpe. Broyez ensuite les grains dans un moulin à café. Enfilez un sombrero, invitez vos amis à un événement Facebook appelé Dia de los Muertos ouvrez une bouteille de tequila, engagez un groupe de mariachi et terminez cette collection de poncifs en utilisant cette pâte appelée masa pour faire des tortillas et tamales à vos invités. Petite anecdote, les Mexicains consomment en moyenne 90 kg de tortillas par an et par personne. Ce qui fait à peu près ton chien, tu vois.
C'est stylé, hein. Vu qu'il a un peu une tête de tortilla, je suis d'accord.
Alors, ces tortillas sont produites en grande majorité de façon industrielle et sont bien sûr nixtamalisées. Le leader de la tortilla s'appelle Gruma et fait partie du Precios y Cotizaciones.
D'accord.
C'est comme si la brioche dorée était cotée au 4,40.
Stylé. Mais ouais. Elle ne l'est pas.
Bah non, bien sûr que d'accord. Non. La brioche dorée n'est pas au 4,40.
Mais d'accord, vais... c'est pas Old El Paso, quoi.
Non. Je vais m'arrêter ici pour ce sujet. Remercier Adrien de m'avoir donné un sujet aussi passionnant. Et remercier mes parents de m'avoir donné la vie. À vous, les studios.
D'accord. Et bah, écoute, une bien belle. J'ai appris pas mal de choses. Hein.
C'est l'idée.
Comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude, un sujet pas facile parce que le
non,
maïs,
c'était très chiant. C'était très chiant. Pour trouver un angle d'attaque.
Passons au mien.
Je t'en prie.
Allez, on remet pas de jingle parce qu'on est des fous. Alors aujourd'hui, dans mon exposé.
Pas de jingle. Allez, on laisse les gens comme ça.
Ok, non,
bim.
Je peux pas faire ça.
Qui digère un peu le maïs et c'est super dur à digérer le maïs.
C'est vrai. On en retrouve souvent. Enfin bref, jingle. Aujourd'hui, dans mon exposé de CE2, on va parler de l'histoire de la psychanalyse. Alors, la psychanalyse, c'est une pratique fondée par Sigmund Freud, qu'il a définie en 1922 et dont il a fait première mention en 1896. Donc voilà, c'est comme certaines inventions, c'est parfois difficile de mettre une date précise sur le début. C'est vraiment l'image cliché du patient allongé sur un divan avec un mec en face qui l'écoute à peine. Alors, petit point pratico-pratique, on va juste faire la différence entre psychiatre, psychologue et psychanalyste. Parce que...
Oui, c'est important. C'est pour notre ami Ronan qui a écrit un livre où il confondait les trois.
Exactement. Alors un psychiatre, en fait, c'est un médecin hein, qui a fait 10 ans d'études et qui a passé une thèse de docteur en médecine ainsi qu'un DES, un diplôme d'études spécialisées de psychiatrie. Un psychiatre a le droit de prescrire des médicaments parce que c'est un médecin. Un psychologue, comme son nom l'indique, est un professionnel de la psychologie. Voilà. En France, c'est un titre protégé et reconnu par l'État depuis 1985. Un psychologue a fait entre 5 et 8 ans... Pardon ?
Non, je disais c'est vieux. J'aurais pensé que c'était plus récent.
Ah non, c'est assez vieux. Et donc un psychologue a fait entre 5 et 8 ans d'études. Il a soit un master ou un doctorat. Il y a désormais de nombreuses études et de méta-analyses qui attestent de l'efficacité de la des psychothérapies, de l'efficacité de la psychologie, quoi, notamment des thérapies qu'on appelle cognitivo-comportementales. Un psychanalyste, enfin, ça peut être n'importe qui, c'est un titre qui n'est pas protégé. Aucune étude n'est nécessaire et en général, il suffit d'avoir soi-même subi une psychanalyse pour se dire psychanalyste. En gros, c'est comme si je venais de me faire opérer de l'appendicite et que ça m'octroyait le droit d'exercer le métier de chirurgien par la suite. Voilà, c'est vraiment ça.
Est-ce qu'on partirait pas sur une énorme arnaque ?
Bah, un petit peu, une petite douille qui dure depuis plus de 100 ans. Il faut savoir que de nombreux psychiatres et psychologues sont aussi psychanalystes, comme quoi... On peut être docteur, mais avoir du mal à lire une méta-analyse. Car, en effet, l'efficacité de la psychanalyse reste très contestée, notamment dans un rapport de l'INSERM, donc l'INSERM, quand même, qui évalue les pratiques médicales, notamment, qui pèse pas mal. Ils ont un rapport de 2004, de 504 pages, je crois, qui sera en description, évidemment.
Hâte de le lire.
Voilà. Toujours important de mettre tes sources en description. Et qui globalement, fait la part belle aux psychothérapies... au détriment de la psychanalyse, quoi.
La grosse différence, mais tu vas peut-être y venir, tu ne nous l'as pas expliqué, quelle était la différence, hormis les études, pour l'instant.
En gros, la psychanalyste, ils sont inspirés de Freud, qui dit, bah, je pense que le fonctionnement humain, ça marche comme ça, sans aucune preuve, alors que la psychologie, bah, ça s'appuie sur des études, ça évolue au fur et à mesure du temps, on fait des études et on... Voilà.
Et la psychiatrie, c'est une analyse des maladies mentales.
Alors la psychiatrie, en fait, c'est une discipline médicale, en fait, ouais. Et ils ont le droit de par exemple pour traiter les troubles bipolaires, les schizophrénies, ils ont le droit de mettre des médicaments, ouais. Quand parfois parler ne suffit pas, quoi.
D'accord.
Donc après ce rappel informatif, on va parler de l'histoire même de la psychanalyse. Il s'est inspiré du travail d'un ami à lui qui s'appelait Breuer, et il a fait un texte fondateur qui repose sur 5 mythes, alors qu'on peut retrouver sur le site officiel des psychanalystes de France.
Ils se sont regroupés quand même.
Il faut savoir qu'il y a à peu près plus qu'en France et en Argentine où vraiment les...
On fait de la psychanalyse.
Ouais, c'est quasiment mort dans tout le reste du monde parce que ça marche pas très bien, quoi. Et donc il y avait 5 mythes, c'est même eux qui qualifient ça de mythes fondateurs de la psychanalyse, en fait 5... 5 patients sur lesquels Breuer a réussi à guérir en leur parlant. Donc je vais revenir sur un cas le plus connu, mais il faut savoir qu'en fait l'histoire a montré que c'est des arnaques en fait. Mm-hmm. Et je vais revenir sur le cas le plus connu, c'est Anna O, donc une patiente hystérique que Breuer aurait réussi à guérir juste en lui parlant. Donc son vrai nom c'est Bertha Pappenheim, et donc dans son texte, Freud raconte comme elle a été guérie rapidement, facilement, en parlant. Et en fait, des études historiques ont montré, plus d'un demi-siècle plus tard, qu'en fait, non seulement elle n'avait pas été guérie, que Breuer ne faisait pas que lui parler, puisqu'il lui administrait des doses massives de morphine.
Ah oui, mais en général, ça calme bien les gens.
C'est sûr, il l'a rendue morphinomane. Et surtout, elle a été hospitalisée pendant de nombreuses années après
ce traitement.
Après ce traitement, en fait. Alors qu'elle avait été déclarée comme guérie par Breuer, elle a été hospitalisée pendant, je crois, 8 ans.
D'accord.
Voilà, donc c'est pas une grosse réussite. En fait, il y a même plusieurs, dans les autres mythes fondateurs, plusieurs autres arnaques. Donc en gros, c'est pas parce que c'est basé sur du vent que la technique en soi marche pas, c'est vraiment parce que ça marche pas que ça marche pas, quoi. Mais voilà. Bon, le but du podcast étant avant tout de divertir, je vais éviter de parler des autres mythes fondateurs et d'expliquer toutes les escroqueries de Freud parce que j'ai pas assez de gigas sur mon disque dur pour enregistrer une émission de 5 jours.
Ça balance.
Ouais, on va juste, dans un but de divertissement pur, faire de l'attaque ad personam vis-à-vis de Freud, ce qui scientifiquement n'a aucune valeur bien sûr, mais ça fait toujours marrer.
D'accord. Tu as dit qu'il fumait le cigare parce que c'était un... Il était encore au stade anal et que c'était un peu dérafoulé.
J'allais pas dire ça parce que du coup, j'ai pas de compétences en psychanalyse, mais tout d'abord, c'était un cocaïnomane avéré.
Ah voilà. Ok, on dit pas de mal. Ok.
On attaque tout de suite. Il en aurait consommé de façon compulsive pendant 12 ans et eu la brillante idée, on peut le dire, de soigner l'addiction à la morphine avec la cocaïne. Donc ouais. Il a publié des études montrant que ça marchait très très bien.
J'ai plein de copains qui arrêtent le chichon en se mettant à l'alcool.
Bah, il a fait une étude qui s'appelle Uber Coke qui à propos de la en allemand parce qu'il était allemand, voilà, qui montrait qu'on pouvait.
Il y avait tellement une start-up Uber Coke, on vous livre quand vous voulez.
Un petit peu, donc il a montré qu'il arrivait à sevrer notamment des amis à lui de la morphine avec la cocaïne, et bon, il a juste oublié de préciser qu'il les avait rendus cocaïnomanes.
Oui, mais d'un autre côté, ils ont arrêté la morphine.
C'est vrai.
C'est quoi le pire?
Bah, je sais pas, mais en tout cas, à l'aune de l'histoire, il y a plus qu'une des deux substances qui est légale. Hein. Voilà. Ouais. Deuxièmement.
You get a point.
Deuxièmement, Freud était surtout là pour la thune. Bon, il y a plein d'exemples.
Tout le monde est là pour la thune, à part nous, Adrien. Nous, avec ce putain de podcast, qui ne sommes pas là pour la thune.
Il y a plein d'exemples. Il y a un livre qui est une bible de référence, qui s'appelle Le Livre Noir de la Psychanalyse, que je vous conseille, d'ailleurs, que je vais mettre dans les sources, parce que c'est ouf, quoi.
Et, j'ai hâte que les gens aient l'ouvre.
Non, vraiment, il est vraiment bien. C'est paru en 2004, en 2005. Il s'est fait bâcher par les psychanalystes, mais par contre, ils ont pris trop cher, quoi, parce que le livre est hyper sourcé. Il y a une quarantaine d'auteurs. Ça regroupe des historiens, des psychologues, des professeurs en médecine. Il est assez lourd.
Deux siècles après, il se fait bâcher. Hein.
Bah, pas que Freud, c'est toute la psychanalyse, en fait, okay. Toute son œuvre. Voilà, il déterre le cadavre et il le...
Tu vas parler de Lacan après ou pas?
Non, alors j'ai fait le début de l'histoire de la création de la psychanalyse, mais c'était un... Ouais.
Parce que Lacan, c'est magnifique. Hein.
Ouais, c'est...
Lacan, au niveau de l'arnaque...
Du cynisme.
Et
il savait que c'était un arnaqueur.
Et il pouvait prendre les gens, mais genre 10 minutes...
Ouais, ne pas les écouter, s'endormir...
Non, et dire aux gens, attendez là, Vous avez vu ce que vous venez de dire? Je vous laisse réfléchir à ça, on se revoit demain.
Ouais. On se revoit. Ou mettre des claques à des patients, enfin bref, il y a plein d'exemples.
Ah ouais, mais après ça... Non, ouais, ça... Dans tous les métiers, t'as envie de mettre des claques à tes clients.
En tout cas, voilà, le livre est vraiment regorge d'exemples. Je vais juste paraphraser une lettre de Freud qui conseillait à Jung, parce que Jung se plaignait qu'en fait ça marchait pas la psychanalyse. Et donc, j'ouvre les guillemets, pour apaiser ma conscience, je me dis souvent, surtout ne cherche pas à guérir, apprends et gagne de l'argent. Voilà les buts conscients les plus utiles. Donc ça, c'est Freud.
Elle a quand même mis apprends.
Ouais. Oui. Troisième petit point de attaque ad personam. Ce bon vieux Freud était raciste. Alors, elle a encore plein d'exemples.
Oh, ça va, tout ça parce que t'es noir, quoi.
Plein d'exemples. Je vais encore une fois paraphraser une de ses lettres. Donc, j'ouvre les guillemets.
Attends, mais c'était. Il faut remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, c'était bien d'être raciste.
Bah, en tout cas, il a dit les nègres proviennent d'une vieille blague courante chez nous. On appelle.
Au début, c'est drôle.
On appelle la cure psychanalytique un blanchiment de nègres. Je me console souvent en disant que si nous sommes si peu performants au niveau thérapeutique, nous apprenons au moins pourquoi on ne peut pas l'être davantage.
Wow.
Voilà, bon, effectivement, peut-être qu'il y avait un contexte, mais c'est.
Ça ah non, toujours... non, même hors contexte, c'est brillant.
Voilà, il y a vraiment plein d'autres exemples.
Ah,
dernier point, après j'arrête mon exposé parce qu'il dure déjà depuis trop longtemps, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Eric. Tu m'avais donné cet exposé surtout avec espoir que j'y parle de l'invention du vibromasseur,
oui,
et de son utilisation comme traitement de l'hystérie,
ouais,
pathologie chouchou de Freud s'il en est. Et effectivement, la création du vibromasseur en 1883 n'est pas si éloignée temporellement de l'invention de la psychanalyse, mais... En fait, une étude de 2018 vient mettre fin au mythe de son utilisation par des médecins afin de traiter l'hystérie. En fait, ça n'a jamais été utilisé pour traiter l'hystérie.
D'accord, j'étais convaincu.
En fait, c'est une meuf qui a écrit un livre sans aucune source qui a inventé ça. Et ça
d'accord.
Voilà. On vit à l'époque des fake news.
Hein. Ouais, mais je suis content que comment ils disent sur lemonde.fr, que tu...
Debunk.
Ouais, tu debunk cette fake news.
Voilà, je mettrai bien sûr l'étude de 2018... en lien en description, elle est en anglais pour les...
Ainsi que des photos de vibromasseur, pour ceux qui ne savent pas à quoi
non
ça
plus,
ressemble.
Je ne peux pas mettre d'image, je crois pas.
Ben, bien sûr que si, il y a bien des images libres de droit de vibromasseur.
Non, c'est pas ça, c'est... Bon, bref,
on va faire des captures d'écran, on va se débrouiller.
Je demanderai à mon community manager, est-ce qu'on lance un débat, est-ce que t'es prêt, est-ce que t'es...
Oui, je suis... Allez. Non, je suis tout le temps prêt pour tout, tu le sais.
C'est vrai.
Vous le savez aussi, chers. Game, do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way, feel it in the darkness. Bienvenue sur LCP.
Bienvenue sur...
Vous
êtes déjà endormi sur votre siège.
C'est trop bien, LCP.
Il est 14h37. Aucun député n'est présent à l'Assemblée. Aujourd'hui, un texte de loi majeur va être voté qui affectera l'ensemble des citoyens. Tu sais que les députés, ils ont, dans la loi,
ouais,
et c'est dit qu'il n'y a jamais de nombre minimal de députés pour voter une loi, ce qui fait que c'est cool quand même.
Ouais, mais elle repasse au moins deux fois au...
Par les sénateurs ?
Ouais,
elle repasse aux députés, donc les sénateurs ne servent à rien.
Non, les sénateurs, c'est des juristes de profession, c'est des vieux...
Ah non. N'importe qui peut être sénateur.
Mais oui, mais en général, c'est des gens qui bossent sur les lois.
En général, c'est des gens qui connaissent des gens plutôt.
Génial, ça va.
Allez, bienvenue dans la rubrique débat sur le glyphosate. Aujourd'hui, on va parler du coup de glyphosate. Donc, j'essaye de faire une intro
complètement biaisée.
Impartiale.
Ouais,
j'essaye. Allez. Tu me dis s'il y a des trucs qui n'étaient pas d'accord, parce que moi, je suis plutôt pro-glyphosate et Eric va devoir jouer le rôle du méchant contre
le
glyphosate. Bouh, le
glyphosate, bouh.
Ah, on dirait un journaliste. Dégoûte. Le glyphosate est un herbicide produit depuis 1974.
Ok, jusque-là, je suis d'accord.
Exclusivement par Monsanto de 1974 à 2000, puis il est tombé dans le domaine public. Il en existe plus de 750 formulations. C'est l'herbicide le plus utilisé au monde et le deuxième pesticide le plus utilisé en France. Il est efficace.
Oui, ça, on est sûr.
Voilà, il est d'un faible coût,
oui, ça, c'est
et
vrai,
simple d'utilisation.
C'est vrai, ça aussi.
Il est très rapidement biodégradable.
Oui. Oui, c'est vrai. On
à quel jour selon l'INRA Bon, t'es pas obligé de me croire, mais en tout cas, l'INRA...
Oui, non, mais on va dire que je crois l'INRA.
Ok, et il permet l'agriculture de conservation.
Ça, c'est vrai aussi.
Qui est une agriculture qui permet le plus de biodiversité des sols. C'est
Oui.
D'accord.
Oui. Okay. Oui, une des. Oui, c'est sûr que okay, si okay. tu mets tout au pluriel, tout passe.
Conditionnel, c'est ça.
Conditionnel. Okay.
Parce que le pluriel, c'est autre chose.
Excusez-moi, ça finit pareil. Okay,
alors moi, je suis plutôt pour, toi, t'es plutôt contre.
Oui, oui. Ouais, bah, dans un débat, il faut toujours un.
En fait, on devait avoir une invitée qui apparemment avait des arguments, mais voilà, au dernier moment, elle a dit bah, finalement, j'en ai pas trop, je préfère pas venir. Voilà.
Non, non, notre invité mystère n'écoutera sans doute pas ce podcast.
C'était Elise Moon.
Ouais.
Ça il est resté.
Je pense que c'est gérable. Non, n'importe quoi.
Vas-y, vas-y. Et si t'as un argument.
Non, non. Je propose que tu me donnes mes arguments.
Ah oui, alors moi j'ai préparé. J'annonce par avance les arguments fallacieux qui vont être utilisés pour mettre à charge le glyphosate. Je pense qu'il y aura des appels à la nature. Une variante de l'ad hominem de l'ad personam, mais.
Okay.
Visé contre Monsanto, il y aura une confusion risque-danger, une confusion corrélation-causalité, il y aura des appels à la popularité, des arguments d'autorité et surtout des appels à l'ignorance.
Voilà. D'accord, donc maintenant que tu m'as volé toutes les possibilités d'argumentation.
Non, je pense que ça sera ça les arguments, et après peut-être que tu as des très bons arguments, je
non,
suis
non,
prêt.
Non, mais celui sur Monsanto, j'allais l'utiliser de base.
Alors, si tu veux, vas-y.
Alors, attaque ad nominem contre Monsanto. Monsanto, créateur de l'agent orange qui a donné le glyphosate, qui a tué des millions de populations dans
l'agent orange, pas le glyphosate.
Oui, oui, dans le sud du Vietnam, qui nous a ensuite pollué d'OGM, rendant les agriculteurs dépendants de leurs semences, et créant ainsi un monopole sur le marché du maïs. Excuse-moi, j'ai fait un exposé sur le maïs. Je m'y connais un peu, j'ai fait du popcorn
non,
il y a des jours.
Non, mais j'attends, okay. Finis ton argumentaire.
Et je trouve, enfin,
Monsanto Papers.
Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à une société dont le nom finit par O? Franchement,
à part Mario.
Enfin, déjà Mario, c'était limite. On les connaît, les plombiers, leurs tarifs, hein. Voilà, surtout le week-end.
D'accord. Bah, bon, pourquoi pas. Après, c'est comme dire, on fait un débat sur les voitures et Volkswagen, c'est des enculés.
C'est vrai. Bon, ils ont aussi fait les voitures des nazis.
Voilà, tu vois. Bon, le glyphosate, c'est une molécule, c'est pas une société.
Non.
Mais
non.
Bon, pourquoi pas. Les Monsanto Papers, ils ont clairement, c'est une société qui craint. Hein.
Ouais.
Après, ils ont acheté que 4 méta-analyses. Ils n'ont pas trafiqué les chiffres. Non, les Monsanto, il faut savoir, ils ont juste rajouté des bouts de phrases. Ils n'ont pas modifié les, ils n'ont pas truqué les études. Ils ont rajouté des trucs.
Ils ont tout mis au conditionnel ou au pluriel. Je
voilà,
ne sais
ils
pas,
ont rajouté des trucs, mais ils n'ont pas. Bref, elles restent quand même analysables. Voilà, mais je ne vais pas du tout défendre Monsanto, parce que du coup, je pense que vraiment, c'est...
C'est des salauds.
Ouais.
Ok. Au moins, on est d'accord. Regardez à quoi ça mène le débat.
Voilà,
ça mène à...
Ah oui, alors pour rappel, jamais un débat n'a fait avancer quoi que ce soit entre deux débatteurs, mais bon, c'est toujours marrant. Écoute, est-ce que tu as un autre argument? Parce que du coup, là, t'attaques Monsanto, mais pas le glyphosate.
Voilà. Non, mais le glyphosate en soi, je...
je suis... C'était un débat court et efficace.
Non, je sais. Bah, je dois jouer le contre-argumentateur.
Bah oui, elle est pas là. Hein.
Voilà. Pour moi, ça pourrit les. Enfin, ça empêche le sol de se régénérer au niveau de la biodiversité. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de biodiversité sur les sols, de ce que j'ai pu voir sur des vidéos qui montraient l'utilisation de pesticides et d'herbicides réguliers, ça empêche la biomasse d'exister et de se régénérer. Donc moi, je voudrais que tu me montres, ou au moins que tu me prouves, j'inverse la charge,
ouais, pas tout
de
ça.
La preuve, qu'il y a pas une perte, enfin il y a une...
Bah, je ne peux pas défendre tous les pesticides, moi je suis...
Bah, au moins pour le...
Ouais, pas de souci. Écoute, il y a un truc qui s'appelle la PNOC, c'est la Predicted No Effect Concentration.
En anglais, non.
Ouais, la dose selon pour laquelle il n'y aurait pas d'effet sur l'environnement.
D'accord.
Et donc,
elle est de...
Alors, ça dépend de chaque substance.
Ouais.
En fait. Et ça dépend aussi de chaque...
Terre.
Non, alors pour le coup, le mieux, c'est dans l'eau, parce que c'est là où c'est le plus toxique, le glyphosate. Et selon l'ANSES, elle est à 60 microgrammes par litre. Et selon un rapport du Commissariat Général au Développement Durable, elle est de 13 microgrammes par litre pour le glyphosate. Donc et la dernière étude qui a été mandatée pour le gouvernement par ce commissariat, elle date de 2013, j'en ai pas trouvé plus récente, et donc ils disent que le glyphosate, c'est le pesticide qu'on retrouve le plus dans l'eau, que cette dose, elle est à 13 microgrammes, et en fait, ils en retrouvent le plus dans les cours d'eau. En moyenne, elle est à 0,1 microgramme, avec un max à 0,3 350 microgrammes. Donc on reste vraiment.
Donc on en retrouve pas dans les cours d'eau, c'est ça que tu veux dire?
Ah si, on en retrouve.
Mais, vraiment à des degrés minimes.
En tout cas, très très en deçà des doses pour lesquelles eux-mêmes qui sont censés inquiéter.
Ouais.
Voilà. Donc voilà. C'est plutôt rassurant.
Ouais, de la même manière. Je te parlais de l'influence.
Là, c'est sur l'environnement, c'est surtout l'environnement.
Ouais, ouais, mais sur l'influence sur les biomasses existantes, bah, sur tout ce qui est sur la Terre, quoi, sur le vivant de la Terre, sur le fait que.
Alors, ça tue les végétaux, c'était ça la question.
Ouais, les végétaux.
Parce que c'est un herbicide.
Voilà. Mais en fait travailler avec une terre morte.
En fait, c'est pas rémanent. Contrairement au sulfate de cuivre utilisé dans l'agriculture biologique, ça reste pas dans le sol. Donc, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Enfin, au bout de même de 4 jours.
Dans 4 jours,
c'est à demi-vie, mais en tout cas, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien.
D'accord, mais maintenant, ils utilisent. Enfin,
c'est parce qu'ils le refont tout le temps.
Même le sulfate de cuivre, c'est passé à la trappe dans l'agriculture biologique.
Ils ont malheureusement renouvelé l'autorisation, alors que c'est pour le coup, ça, c'est rémanent, ça reste dans le sol, ça défonce la biodiversité, effectivement.
Et il y a ça qui m'inquiète, parce qu'en fait. Tu tues ton sol, donc tu n'as plus de biomasse qui crée
c'est
de la
si
richesse,
ça pour,
et après tu dois mettre des engrais.
C'est pas un si bon insecticide.
Moi, ce qui m'embête, c'est dans le système de production. C'est-à-dire que tu vas utiliser cet herbicide.
Bah, tu utilises comme tu veux.
Ouais, mais tu vas tuer la biomasse et tu vas devoir utiliser des engrais pour pouvoir refaire pousser par-dessus.
Non, ça dépend vraiment comme tu l'utilises.
Ouais, voilà, mais en fait, à la base. Dans l'utilisation traditionnelle.
C'est comme si tu disais.
Non, mais l'utilisation majoritaire du glyphosate, ça a été comme ça pendant des années.
Ah oui, mais maintenant, c'est plus comme ça.
Ah bah, parle-moi du maintenant, c'est plus comme ça.
D'accord. Et bah, par exemple, l'agriculture de conservation ou. Putain, j'ai oublié le nom. Il y a une agriculture où. Alors là, pour le coup, c'est top. Ils mettent des sondes qui repèrent les mauvaises herbes et qui mettent du glyphosate juste sur les mauvaises herbes, qui fait une économie de.
Ils mettent des sondes qui repèrent les mauvaises herbes.
Ouais, et qui pulvérisent le glyphosate juste. Sur la mauvaise herbe, ce qui épargne en fait tout quoi.
D'accord.
Et, bah, l'agriculture de conservation, bah, je t'en ai déjà parlé, c'est
ça consiste.
Couvert végétal pendant toute l'année, dès que tu veux planter, bah, tu mets ton glyphosate, ça tue tout, et tu.
Mais ça tue le sol aussi dans ce cas-là.
Je sais pas ce que t'appelles tuer le sol. Mais c'est un herbicide, donc ça tue les.
Ça
tue pas tant les insectes que ça. C'est pas des. Alors ça fait pas partie des néonicotinoïdes, c'était
ouais, ça. Ouais, c'est ça. Bah, y a aussi ça comme contre-argument de.
C'en est pas un.
Ça n'en est pas un, mais ça demande à être couplé avec l'utilisation de néocotinoïdes dans
Alors, ça dépend production. Des formulations, mais du coup, je ne peux pas me prononcer sur les 750 formulations.
Oui,
effectivement, il y en a des toxiques.
Il y en a plein où on
Mais alors, c'est la même. Il y a une étude qui montrait que le popper, c'était dangereux quand tu prenais de la coke avec.
Non, mais oui. Le popper, c'est dangereux de base.
Non, mais il y a une étude qui disait, attention, c'est dangereux, les gens qui prennent de la coke avec font des arrêts cardiaques.
Mais le popper de base est dégueulasse. Quoi. C'est
alors,
un
en tout cas, en gros,
pour peinture.
Là, on parle du glyphosate, on parle pas des formulations, tu vois.
Non, mais c'est sûr. Mais sauf que si ça amène à utiliser... Tu peux pas dire, je prends une drogue qui est pas trop nocive à la base, par exemple l'alcool à faible dose. Et, bah, pas trop nocive, je veux dire. Si tu prends une bière, ça va. Même là.
je pensais que tu allais utiliser l'argument de... Bon, bah, peu importe.
Vas-y, utilise-le.
Bah, un des trucs qu'on retrouve dans beaucoup d'articles à charge... Alors, il y a un traitement médiatique du glyphosate qui est... Je sais pas pourquoi ils sont très, très anti-glyphosate dans les journaux.
Mais je pense que parce que ça permet l'avènement de une agriculture biologique.
Mais qui est une catastrophe hein, sur un point de vue écologique.
Mais non, mais pas sur l'utilisation du cuivre. Mais je veux dire sur
l'utilisation... Non, mais même en termes de rendement pur, c'est 20% de rendement moins... Ah si, par rapport au conventionnel, le bio.
Même en prenant les tricultures, enfin les cultures avec, tu sais, où tu mets des haricots à la base comme faisaient les Mayas pour le maïs.
Tu veux dire la permaculture ?
Ouais, permaculture.
La permaculture, il y a une étude qui montre que ça pourrait pas nourrir la terre entière, alors que le bio, ça pourrait en soi dans l'absolu. Mais par contre, si tu le fais, tu es obligé de détruire 20% de terre en plus, à peu près. Et donc, c'est globalement un désastre.
Non, d'accord. Donc, c'est pareil, ça demande à raser des forêts encore.
Ouais, beaucoup plus. Donc, c'est pas... Voilà. Et un des arguments qu'on voit souvent, c'est que c'est cancérogène probable, selon le CIRC, donc un groupe de classification du danger de l'OMS sur les cancers.
Ouais. Bon, ça, je pense pas que ça soit plus que la majorité des produits qu'on ingère, mais...
Bah, en gros, il s'appuie. Donc, il y a une agence qui dit ça, voire deux, et en fait, il y en a 15 ou 16 agences, pareil, intergouvernementales, qui disent que ça ne l'est pas. Ils sont surtout appuyés sur des études sur les rats, et surtout, ce que j'aime pas avec le CIRC, c'est qu'il
y a. Après, les études sur les rats, moi, ça me va, hein, quand tu vois.
Non, parce qu'il y a eu des études sur les hommes qui ont montré.
L'inverse.
Il y a une étude récente, je crois que c'était 2017, une étude de cohorte prospective, bref, une étude très solide sur 54 000 agriculteurs, donc vraiment une grosse étude financée par des fonds publics, par une chercheuse indépendante, pour le coup, elle met sa carrière en jeu si elle se fait acheter, qui a montré qu'il n'y avait pas plus de ni de lymphome non-Hodgkinien, ni aucun de terme de aucun risque de cancer en plus chez les utilisateurs de glyphosate.
D'accord.
Qui les utilisaient, par contre, avec les vraies précautions d'emploi. Il y a des précautions. Ah non, mais c'est comme quand t'as une voiture.
Je les imagine masquées du pied à la tête.
C'est ça. Non, c'est ça, les précautions d'emploi, c'est des gants.
Waouh, j'ai zéro cancer avec l'alcool. C'est comme, parce que j'en bois pas et que je m'en arrose masqué du pied à la tête.
Et bref, et c'est comme la voiture, quoi, le débat sur la voiture. Bah ouais, si tu conduis sans ceinture, t'as plus de risques d'accident. Il y a des règles de sécurité.
Mais oui, mais ça reste que c'est un produit. Sauf que ça se balade dans l'air, ce truc.
Non. Non. Dans l'eau et dans le sol, pourquoi pas, mais pas dans l'air.
Dans l'eau et dans le sol, on va le retrouver forcément dans notre bouffe.
À des doses qui sont pas. Ouais, oui, complètement. On le retrouve dans la nourriture, on le retrouve dans les urines de tout le monde. Ouais.
Et c'est censé.
Des doses qui sont vraiment pas du tout inquiétantes. En fait, j'ai aussi une étude qui montre qu'on retrouve des traces d'uranium dans l'urine de tout le monde. Voilà.
Oui, mais ça c'est normal, nous.
Enfin... ça c'est normal, l'uranium c'est vraiment délicieux au petit déjeuner. Il faut pas confondre risque et danger. Tu vois, c'est pas parce que y a un danger qu'il y a un risque.
Okay.
Et c'est une grosse confusion. Donc, attends, je fais mon petit diatribe.
Vas-y,
sur la cancérogénicité. Pour information, le CIRC a 4 groupes selon la cancérogénicité. Il y a un groupe probablement non cancérigène pour l'homme, un groupe inclassable, probablement cancérigène pour l'homme, donc dans lequel était le glyphosate, et un groupe, on est sûr que c'est cancérigène. Okay. En fait, le groupe probablement non cancérigène pour l'homme ne contenait qu'une seule molécule. Voilà, c'était même pas l'eau, c'était le carpolactam qui a même été retiré, ils l'ont mis dans le groupe 3. Donc en fait, c'est un groupe qui est pas top.
Moi, c'est donc on peut dire que humainement, c'est pas, on n'a pas de risque direct de l'utilisation du glyphosate.
On peut dire qu'il y a pas de risque, ouais. On peut dire qu'il y a un danger.
À part peut-être pour les utilisateurs directs dans des mauvaises utilisations.
Alors c'est débattu.
Ce serait comme utiliser de l'essence tous les jours sans protection.
Voilà, c'est débattu parce qu'on n'est pas sûr. En fait, c'est assez dur de mettre un lien de causalité. En tout cas, c'est peut-être dans le groupe probablement cancérigène dans le groupe de CIRC. Mais il faut savoir que dans le groupe 1, il y a notamment certains types de viande, il y a l'alcool, les rayons du soleil et la pilule contraceptive. Tu vois, donc ça relativise.
Ouais, des trucs qu'on utilise bien plus au quotidien, surtout pour nous, pilule contraceptive.
Voilà. En fait, la différence
entre... Sauf toi, la pilule contraceptive.
la différence entre risque et danger, c'est... le danger, c'est ce qui est théorique, c'est-à-dire il y a un gros danger avec un couteau, si tu te le plantes dans le cœur, tu meurs, il y a un danger avec l'eau, il y a un danger avec beaucoup de choses. Mmh. Le risque, c'est la pratique, c'est en pratique combien de personnes sont concernées, combien... Voilà.
Et, bon, en tout cas, moi, je suis convaincu sur cet argument-là, j'espère que chez vous aussi, vous l'êtes. Non, parce qu'en soi... de démontrer que ce n'est pas cancérigène, c'est déjà un premier pas.
Même si ça l'est, en fait, même si c'est vraiment cancérigène à des doses très très hautes,
c'est des doses qu'on
rencontrera jamais, qui ne sont même pas rencontrées chez les agriculteurs. D'accord. Les agriculteurs qui, je le rappelle, ont une plus longue espérance de vie que nous.
Parce qu'ils travaillent.
Je ne sais pas, mais en tout cas, que la population générale.
Ouais. Mais en comptant les suicides, en comptant les
maladies. C'est étonnant quand même.
Les maladies et tout.
En comptant tout, ils vivent plus longtemps.
Oui. Peut-être parce qu'ils mangent les produits de leur jardin et que c'est moins
dégueulasse. Une des hypothèses, c'est qu'apparemment, il y a moins de tabac.
Bon.
Si.
Ils fument du foin.
Dans les agriculteurs.
En tout cas, pas les agriculteurs en Bretagne, gars.
Je sais pas, mais en tout cas, c'était une des hypothèses.
Ok.
Donc, voilà.
Bon, sur cet argument, ça me va. Après, c'est vraiment l'argument de l'utilisation sur lequel tu m'as expliqué que, bon...
L'utilisation actuelle, à
l'ancienne du glyphosate, faisait que ça pouvait effectivement tuer la biomasse et ne pas...
Non mais ça peut, c'est son but, c'est un herbicide, donc son but c'est de tuer les herbes en fait.
Ouais, mais le fait qu'on perde une richesse de la terre et qu'on puisse pas la retrouver à force d'utilisation consécutive...
C'est pas rémanent, donc ça reste pas dans les sols.
Sauf que ça, on a une terre... Si à chaque fois on est obligé de remettre de l'engrais, notre terre en profondeur, moi c'est ce que j'avais vu... C'est que notre terre s'appauvrit, quoi. Parce qu'à chaque fois, tu es obligé de remettre de l'engrais pour faire repousser. Et en fait, c'est la partie supérieure de ta couche de terre qui va nourrir la plante. Mais toute la partie inférieure, toutes les strates...
Je
ne
pas le rapport, parce que du coup, l'engrais, tu l'utilises un peu partout, quoi.
Non, mais ça va se faire de la couche supérieure sur laquelle vont se nourrir les plantes. Mais toutes les strates de ta terre, ça va appauvrir la terre à un niveau...
Non, mais tu utilises aussi de l'engrais, tu utilises aussi en bio, tu utilises...
Oui, mais là... Le fait que c'est à chaque fois... En fait, ta terre n'est plus vivante. Il n'y a plus de bestioles, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien à l'intérieur, que ça fait une terre morte et sèche, quoi.
Du fait de
l'utilisation régulière du glyphosate et de l'engrais juste en surface. Ça crée une partie, mais quand l'engrais disparaissait après avoir produit, bah, tout a été bouffé par les plantes, et donc l'engrais disparaît, et en dessous, c'est ce que je voyais sur les strates.
T'as peut-être une source, une étude.
Mais bien sûr que non, j'ai jamais travaillé comme ça.
D'accord. Bah, parce que... Ben, je sais pas du coup ce que...
Écoute, moi j'avais pas bossé sur
Twitter. Ok, pas de soucis.
Je fais avec les connaissances.
Un argument que j'avais prévu, c'était le déclin des abeilles.
Oui, oui. Mais c'est avec la... on l'a un peu évoqué avec l'utilisation de néonicotinoïdes.
Qui sont des insecticides, donc leur but c'est de tuer les... Mais ce qui n'est pas le glyphosate.
Et qui sont utilisés combinés au glyphosate.
Bah ça dépend en fait, si tu as besoin d'un pesticide, enfin d'un insecticide, tu utilises des néonicotinoïdes. Voilà. Tu vois, c'est pareil, c'est autre chose, quoi.
D'accord. Oui, mais s'utilise en combo.
Bah, tu fais ce que tu veux.
Oui, mais c'est ça. Le truc, c'est que sur les 750 façons d'utiliser le glyphosate.
Ah, dans les formulations directes.
Bah voilà.
Il y en a sûrement qui sont
blindés de néonicotinoïdes. Et ma question, c'est est-ce que dans l'utilisation, en fait, il faudrait juste clarifier.
J'avoue, je connais pas par cœur les 750.
Non, mais justement, c'est là où est le problème. C'est à quel moment l'utilisation du glyphosate est couplée à des éléments dangereux pour les populations d'insectes.
Bah, surtout que l'INSERM précise bien dans son... C'est l'INSERM ou l'ANSES qui précise bien dans son rapport que plus on rajoute de trucs, plus ça a de chances d'être toxique.
Bah, oui.
En soi, le glyphosate, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et évidemment, il faut faire attention. Évidemment, il faut tester chaque formulation, hein, c'est sûr. Mais du coup, bref, pour le déclin des abeilles, en fait, le déclin, il a commencé bien avant la vente du glyphosate. J'ai retrouvé une courbe, je mettrai la source en description, comme d'habitude. Et en fait, ça a commencé, alors, elle commence en 1950, et déjà, on voit que ça chute drastiquement.
C'est avec l'industrialisation du
glyphosate. Voilà, très certainement multifactoriel. Le site, c'est genre Protégeons les abeilles, enfin, je mettrai le site. dedans, ils mettent des études. Et en gros, l'hypothèse la plus probable, c'est trois choses. Donc les néonicotinoïdes, les frelons asiatiques et en fait les parasites, voilà, dont le pire, c'est un acarien.
Et, qui s'attaque directement aux abeilles.
Ouais, bah conjointement en fait, le fait d'avoir des néonicotinoïdes plus les acariens, ça défonce les abeilles et ça fait le syndrome d'effondrement des ruches. Et en fait, vraiment, il est arrivé en Europe en 1985 et on voit vraiment une chute du nombre d'abeilles sur la courbe.
Et ça, c'est
dû
à quoi? Enfin, c'est dû au néonicotinoïde couplé aux acariens.
Le fait qu'il soit arrivé en Europe, je ne sais pas, c'est peut-être le réchauffement climatique. Voilà. En tout cas, c'est vraiment, on voit, il arrive en Europe et ça décime le nombre d'abeilles.
Et t'as regardé si on pouvait se passer des néonicotinoïdes?
Du tout. Alors, je suis pas très favorable pour le coup.
À la destruction des abeilles, tu m'étonnes.
Ouais. Et au néonicotinoïde.
On m'avait.
Autant, je pense que le glyphosate.
On me l'a dit quand j'avais 13 ans, donc ça fait un bout de temps.
Oula.
On m'a dit quand j'avais 13 ans, le jour où les abeilles disparaissent, c'est la fin du. C'est l'effondrement de.
Je sais pas. L'effondrement vient.
Ils ont essayé en Chine, là, de polliniser des arbres avec des humains.
Ah ouais, j'ai vu la photo avec le mec avec son petit pinceau.
Ça prend un temps monstrueux et ils ont essayé avec des robots. Ça prend un peu moins de temps, mais ça prend quand même un temps monstrueux. Enfin, c'est dingue d'essayer juste de remplacer
un truc qu'on
a d'avance, quoi.
Bon, bah, du coup, si...
Voilà, t'as donné tous tes arguments?
Ouais, j'ai un rapport de l'INSERM.
Putain, le mec est tellement chiant.
J'ai un rapport de l'INSERM, j'ai un rapport de... Bon, je mettrai tout en description. Globalement, franchement, d'un point de vue scientifique, en fait, le glyphosate, c'est quand même plutôt une bonne idée. Hein. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi il y a un traitement médiatique horrible.
Mais je pense parce que, justement, c'est couplé... Enfin, il y a Monsanto derrière.
Ouais, je pense que. Alors, à juste titre, je pense que les gens n'aiment pas Monsanto. Je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que Greenpeace, ça vaut pas mieux que Monsanto. Et ils manipulent vachement contre le glyphosate. Il y a un super. Il y a un blog qui s'appelle Bunker Day. C'est un mec qui fait du debunking et qui a tout un article sur Greenpeace. En fait, on se rend compte que vraiment, c'est. Voilà, eux aussi, ils ont un agenda. Eux aussi, leur but, c'est de faire de la thune, en fait. Ils sont pas très honnêtes, quoi.
Ah ouais?
Ouais, j'ai pas du tout confiance dans Greenpeace, malheureusement.
Ouais, mais tu m'avais parlé de la même chose avec Greta Thunberg.
Alors, je pense qu'elle, je pense pas qu'elle... Non, c'est plutôt ses parents ou son entourage qui
n'ont pas l'air très honnête. Ouais. Moi, j'ai tendance à me dire que quand les gens se battent pour une cause...
Bah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs écologiques qui reposent sur l'appel à la nature, le fait que...
Ouais, c'est sûr.
Instinctivement, on se dit, c'est la nature, c'est mieux, et ça, c'est pas très scientifique, en fait.
Non, c'est sûr.
C'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses quand même où je vais avoir tendance, même si derrière les objectifs ne sont pas sont pour de la thune ou pour de la célébrité ou pour quoi que ce soit, si l'objectif premier c'est l'intérêt général, je vais avoir plus tendance à passer outre
ouais.
le fait que derrière peut y avoir des magouilles.
Oui, c'est comme j'avais une pote végane qui me disait ah non, c'est, on ne devrait pas traiter les végans de terroristes quand ils vont faire péter des usines. Bah, moi je trouve que si, du coup ils ont une idéologie, ils sont prêts à aller aux armes pour la défendre. C'est la définition du terrorisme. C'est pas parce que toi tu penses que c'est bien, tu vois. Parce que je pense que les djihadistes, ils sont convaincus de leur truc aussi, tu vois.
Les résistants étaient traités de terroristes pendant Seconde Guerre mondiale. Hein.
Ah oui, mais.
Mais moi, le terrorisme vert, je l'attends toujours. Hein. Il serait temps d'y passer. Hein.
Ah, je suis pas favorable.
Bah, on est toujours plus favorable à la démocratie qu'à des gens qui prennent les armes à la place de la
démocratie. J'ai toujours dit que j'étais pour une IA. une IA. Voilà. Global qui contrôle tout, qui gère les postes de juge, de député, de
juge,
de sénateur,
ce serait, mais c'est une vraie belle idée que tu as.
Je suis pas le seul à l'avoir. Mais
c'est vrai.
Ouais. Je pense que l'administratif en France, de façon générale, tu sais,
il n'y a pas besoin de.
Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de lenteur,
Mais pour
beaucoup de choses qui vont pas.
Pour la justice, moi j'hallucine. Hein.
Il y a beaucoup.
Pour lire beaucoup de résumés, de procès, de trucs comme ça, parce que j'avais du temps à perdre pendant mes études.
Yes.
Et à chaque fois, tu vois que la décision de justice, ça peut être tout l'un ou tout l'autre,
ouais.
en fonction du juge. C'est vraiment, il y a une tellement grande interprétation de la loi qui est laissée au choix du juge.
Et pas forcément qu'au choix, il y a des choix inconscients. Il y a plus de condamnations, il y a globalement beaucoup plus de condamnations avant le repas, avant le repas de midi, qu'après le repas de midi. Donc tendance à être plus sévère.
Ouais.
Ouais, mais voilà, c'est...
Non, mais ça semble tellement logique, quoi.
Ouais. Ah, je suis d'accord. Écoute.
Ah ouais.
On devrait inviter le gars du podcast probablement qui parle beaucoup d'IA.
Il y a d'autres podcasts qui existent que le nôtre.
Bref, sur ce bon débat.
T'as pas une mission à donner aux gens? Mettez du glyphosate dans le lait de votre enfant, un truc.
Alors il faut faire ça à
des doses vraiment minimes comme ça, il ne risque rien.
Il y a une super vidéo YouTube qui s'appelle Je bois un verre de glyphosate.
Non.
Qui explique la différence.
Dis-moi qu'il le fait vraiment.
Non, il le fait pas.
Oh,
il explique,
c'est
en fait,
tellement putaclic. C'est
parce qu'il y a un lobbyiste qui disait ouais le glyphosate est sans danger, le glyphosate est sans danger, et le journaliste a fait vous avez qu'à boire un verre. Du coup il a dit non, donc il s'est retrouvé un peu con. Il explique la différence entre risque et danger. Et la vidéo est très très bien. C'est un mec qui s'appelle Monsanto. s'appelle Matadon. Ça ressemble.
C'est tellement drôle. Voilà. C'est le meilleur lapsus que tu pouvais faire.
Tu sais que lapsus, ça vient de la psychanalyse. Putain, on se retourne tellement dessus.
C'est vrai?
Ouais, ça vient de la psychanalyse.
Du coup, c'est une grosse connerie le lapsus.
Une connerie, non, ça existe les lapsus, mais en tout cas, ça ne vient pas d'un traumatisme sexuel de ton enfance. Quoi.
Non, mais ça vient un peu d'inconscient quand tu fais un lapsus, c'est-à-dire que c'est des mots qui se rapprochent, des trucs un peu faciles.
Je sais pas.
Il n'y a aucune étude psychologique qui a été faite sur le lapsus.
Alors, j'avoue que je n'ai pas fait de recherche, mais Freud a affirmé pas mal de trucs en sortant des trucs de son chapeau, comme l'interprétation des rêves, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment entré dans la... l'expression faire son deuil, ou voilà, c'est lui qui a lancé pas mal de trucs.
Ah ouais, mais en fait, toute une partie de notre.
Le complexe d'Oedipe.
Ouais, bah ça. Mais ça
qui
n'est
pas
ce
si vérifié que ça, en fait. Hein, c'est, en psychologie, je ne sais plus les pourcentages. Effectivement, il y a un peu plus de garçons qui préfèrent leur mère, de mères qui préfèrent leur fille, mais c'est loin d'être universel comme il le prétend. Enfin voilà, c'est vraiment la psychanalyse est une vaste arnaque. Je vous encourage vraiment à lire le livre noir de la psychanalyse.
Ouais, mais ça m'intéresse.
Qui fait 600 pages. Hein, mais
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Faut avoir du temps.
Je suis content d'être au chômage parce que ça me laisse moult temps pour mes activités extrascolaires.
Putain, j'aimerais tellement gagner autant d'argent en étant au chômage.
T'as
pas une mission à donner aux gens?
Je suis pas sûr que les gens suivent.
De toute façon, moi je suis pas sûr que les gens écoutent notre podcast.
Il y a plein de gens qui écoutent notre podcast.
Non, déjà, envoyez un mail, prouvez-nous que vous existez. Je veux pas forcément un colis, pas forcément un cadeau, ni des pâtisseries, mais envoyez un mail.
Vlog, j'ouvre le colis des abonnés.
Oh putain, un morceau de doigt. Non, pourquoi?
Une mission, écoute, c'est pas facile. Ah si, mission recette.
Ah oui?
Ouais.
T'en avais encore une?
Oh, j'en ai une trop bien. Nouvelle
aussi bien que de faire cuire du maïs avec un peu de charbon.
Plus simple en tout cas. Je vais vous apprendre à faire.
Ouais. Plus simple que de cuire du maïs avec du charbon.
T'as du charbon chez toi, je crois pas. C'est dur à trouver. À faire des tablettes lave-vaisselle
Ah, ouais, ouais. Je t'en prie.
Donc, il faut un bac à glaçons, de l'acide citrique, du percarbonate de soude, du bicarbonate de soude, c'est pas pareil, et des cristaux de soude.
Et tu mets tout ça dans tes bacs à glaçons, tu mets ça au congélateur.
Tu mélanges, tu mets du gros sel, tu mélanges, un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu d'eau, parce que ça mousse et ça, et voilà. Tu mets dans les glaçons, tu tasses bien, et ça fait des tablettes de lave-vaisselle qui D'accord. marchent super bien. Voilà.
Et il faut un lave-vaisselle du coup.
Oui, okay. Mais j'apprendrai la recette du liquide vaisselle.
Pour les gens qui n'ont pas de lave-vaisselle.
Voilà, et ben écoute,
c'est super.
Cet épisode de 51 heures presque.
Une heure oh,
non, finesse, on est à 50 minutes, mais je vais mettre un.
Tu vas avoir du montage.
Ouais, il restera plus que 3 minutes après montage. Petit jingle. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. 500 auditeurs, mais 500 auditeurs sans compter iTunes. Je pense que. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. J'aimerais bien que. Tiens, maintenant on peut avoir des procès en diffamation, on peut plus dire de mal. Tu vois, Freud il est mort, mais je voulais bâcher Douce Blasi parce que c'est un gros fils de fils.
Ouais, mais arrête d'avoir une ministre de Chirac, ça va suffire.
Ils ont créé une gamme de déos spéciale Douce Blasi tellement ils puent en fin d'intérêt. Merci. Allez, bim. Kouchner aussi, d'ailleurs. Ouais, foolish game. Putain, et c'est quoi tout ce battage médiatique autour de Chirac?
Je sais pas, moi ça m'a. J'étais là, waouh! Je ne vais pas quand il était vivant, je ne vais pas me mettre à l'aider maintenant qu'il est mort.
Ah, il était moins pire que les derniers.
Non,
oui, c'est parce qu'on était plus jeunes, je pense.
Ouais,
on s'en rendait moins compte.
Il y a eu un article de Price qui disait que, vu que notre génération, en fait, on peut bien. Et en fait, c'est un peu leur différent.
D'accord. Ah, les valeurs
tradies.
Rewire our connection. Le vrai, c'est pas mal. Et celle-là aussi, là. La mort subite.
Ouais, c'est la mort subite. C'est un peu pensé à une gueuse. Elle est un peu acide.
C'est une gueuse.
Ouais,
merci de nous sponsoriser.
Envoyez-nous de la bière. Arrêtez de nous envoyer des morceaux de bois par la poste. Envoyez-nous de la bière.
Filez-moi mon pot de vin. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given. If we move in that direction, we'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game.
Ouais, putain, c'est incroyable. Comment j'aurais été riche si j'avais pas pu se dire dans
un. Moi, j'ai une vanne. Enfin, j'ai une. Non, c'est pas une vanne, c'est une. Info. Si vous allez au Mango et que vous parlez au serveur et que vous lui mentionnez le code Lagrange, il vous offre un verre de vodka Red Bull gratuitement.